Seigneur
yes,
ce
Lord.
Matin. Nous attendons à toi.
Yes, Lord.
Elle a changé nos cœurs. Elle
yes,
change
Lord.
Notre manière
yes,
de penser.
Yes, hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your word. Thank you for your word, Holy Spirit. Thank you for your word, precious Father. Thank you for your word. Thank you, Lord. Thank you for your word. Thank you for your word. Thank you for your word.
Dans le nom de Jésus, que ta parole opère des changements radicaux. Zéan sur la manière de
Demandez à Dieu de vous parler.
Dans le nom de
demandez à Dieu de vous communiquer son cœur ce matin. Demandez au Saint-Esprit d'agir dans vos vies ce matin. Qu'il amène une transformation.
Amen la transformation.
Qu'il vous amène à voir les choses comme Dieu les voit.
Je vais voir les choses
oh,
comme
Father,
toi,
we thank you. Hallelujah. Oh, God is so good. Merci, Père. Père, nous te remercions pour ta parole.
Amen.
Nous te remercions parce que ta parole est esprit et elle est vie.
Amen.
Nous te remercions particulièrement ce matin, Père, pour la tendresse que tu as envers nous.
Amen.
Pour cet amour merveilleux que tu as pour nous et qui t'amène à vouloir partager ton cœur avec
Amen.
Nous. Merci, Père, pour ce désir que tu as d'avoir un peuple qui voit les choses comme toi, tu les vois.
Amen.
D'avoir un peuple qui t'est acquis corps, âme et esprit.
Amen.
D'avoir un peuple qui a ta perspective des choses de la vie et des choses de l'éternité.
Amen.
Père, nous voulons être ce peuple qui n'est non seulement, qui fait non seulement partie du royaume, mais qui a les pensées du royaume de Dieu.
Amen.
Père, nous te remercions. Nous savons que tu comptes sur nous dans notre génération. Nous savons que non seulement tu nous viens en aide, mais tu passes par nous pour venir en aide à une génération qui est éloignée de toi. Et Père, nous voulons voir les choses comme tu les vois. Nous voulons penser comme Jésus pensait quand il était sur terre.
Amen.
Nous voulons agir comme Jésus agissait quand il était sur terre. Nous voulons être en symbiose avec Dieu, le Saint-Esprit. Nous voulons
Amen.
Être en pleine harmonie avec toi. Nous voulons être divorcés de la pensée charnelle et humaine et être totalement en symbiose avec la pensée de Dieu. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui est constamment en train de nous enseigner,
Amen.
Qui nous conduit dans toute la vérité. Merveilleux Saint-Esprit, ce matin, nous te donnons carte blanche.
Amen.
Nous t'invitons à communiquer, à libérer ta parole,
Amen.
À toucher ton Église, à agir dans le cœur de ton peuple, à nous amener là où le Père veut que nous allions, dans
yes.
la ressemblance parfaite du Fils de Dieu, dans le nom puissant de Jésus.
Amen.
Amen. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Glory to God. Notre Dieu est bon. God is so good. L'évangile est une bonne nouvelle. Elle est la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et nous devons en être convaincus. Totalement convaincus. Être enfant de Dieu, ce n'est pas d'aller à l'église. C'est être convaincu de la réalité, la véracité de l'évangile. Être réconcilié avec Dieu. Et ensuite, aller au culte pour l'adorer.
Amen.
Et recevoir ce qu'il a pour nos vies. Amen.
Amen.
Glory to God. Alléluia. Le socle de la vérité. C'est la série prophétique que nous sommes en train de faire. Parce que Dieu veut faire quelque chose de fort dans notre génération, nous amener à avoir sa perspective, sa vision des choses, de nos vies, du monde dans lequel nous vivons, et nous amener à fonctionner sur la terre comme nous sommes censés fonctionner. Ce qui est merveilleux, c'est que lorsque Jésus nous a sauvés, il ne nous a pas donné simplement une assurance incendie, il nous a donné une capacité d'action dans notre génération. Il nous a donné la capacité de sortir les gens des ténèbres avec la puissance du Saint-Esprit. Il nous a donné la capacité de libérer les captifs. Il nous a donné la capacité d'amener la guérison et la délivrance dans la vie des gens. Et il nous a envoyés pour le faire. Dites à quelqu'un, tu es envoyé. Yes, yes, yes. Vous ne le pensez peut-être pas, mais vous êtes envoyé. Quand je suis venue au Seigneur, je ne savais pas que j'étais envoyée. Tout ce que je savais, c'est que bon, j'étais d'accord. Gloire à Dieu, j'étais d'accord avec Jésus. Donc, je suis venue, mais j'avais l'intention de continuer à vivre ma vie. Je ne savais pas que Jésus réclamait ma vie. Oh, glory to God. Et il me l'a fait connaître. Jésus réclame votre vie. Mais ce qu'il veut, ce n'est pas simplement votre présence physique au culte. Ce qu'il veut, c'est que vous pensiez comme lui. C'est que vous ayez la même perspective que lui. Parce que lorsque nous n'avons pas la même perspective que Dieu, nous ne pouvons pas vivre la vie que Dieu veut que nous vivions. Et nous ne pouvons pas être une aide pour notre génération. Je veux que vous regardiez avec moi dans Ézéchiel chapitre 2. Dans cette série sur le socle de la vérité, nous sommes en train de parler des fondamentaux. Nous avons commencé à la nécessité pour l'Église, dans notre génération et face à ce qui se passe dans notre monde, de savoir ce que nous avons cru et de ne pas renégocier les vérités essentielles de l'Évangile. Aucune vérité de l'Évangile n'est. Toute vérité de l'Évangile est essentielle. Alléluia. Non, nous ne renégocions pas la parole de Dieu. Nous ne renégocions pas les doctrines de Christ. Nous ne renégocions pas les valeurs chrétiennes. Parce que nous n'avons pas vocation à être à l'aise dans le monde. Nous avons vocation à être mal à l'aise dans le monde. Tant que le monde n'est pas entièrement acquis à Christ, nous ne devons pas être entièrement à l'aise. Si nous sommes entièrement à l'aise, c'est que nous ne sommes pas entièrement acquis à Christ. Est-ce que vous me suivez? Et de plus en plus, l'Église, avec un grand E, commence à se dévier et à s'éloigner des doctrines de la parole de Dieu parce que nous sommes dans une génération qui est de plus en plus hostile à l'Évangile et de plus en plus hostile aux vérités que nous considérons comme étant essentielles. Et progressivement, nous commençons à nous en éloigner. Comme nous avons vu dans les deux précédents messages, lorsque le diable est venu tenter Jésus, il est venu tenter Jésus avec deux choses. Il est venu tenter Jésus avec ses besoins personnels, le besoin de nourriture. Il est venu tenter Jésus avec le besoin de gloire. Il est venu tenter Jésus aussi avec ce qui était sa destinée, acquérir les royaumes de ce monde pour le Père. Il est venu lui proposer des moyens qui ne sont pas les moyens que Dieu a décidés. Et nous sommes souvent tentés, pour subvenir à nos besoins, d'aller chercher des moyens qui ne sont pas des moyens qui glorifient Dieu. Nous sommes souvent tentés aussi, l'Église avec un grand E, est souvent tentée aussi pour faire en sorte que les gens viennent à la connaissance de Christ, pour donner une bonne image de l'Évangile, pour donner une bonne image de l'Église, pour éviter que les gens nous condamnent ou nous critiquent, et aussi parce que nous avons peur d'être persécutés, n'est-ce pas? Donc, l'Église a tendance à commencer à atténuer l'Évangile. Ça vous gêne lorsque nous disons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nous disons que Jésus est une voie parmi d'autres. Ça vous gêne lorsque nous parlons de la chute et du péché, nous disons que le vrai péché, c'est de ne pas aimer. Ça vous gêne lorsque nous parlons de l'enfer, nous disons que finalement, l'amour triomphe. Et que Dieu, à la fin des temps, parce qu'il est amour, il va dire que bon, c'est pas grave. Et ces enseignements sont en train de gagner du terrain dans l'Église. Mais est-ce que vous savez que si c'était cela ce que l'apôtre Paul croyait, si c'était cela ce que Pierre croyait, ils n'auraient pas prêché l'Évangile. Ils ne se seraient pas tenus devant des gens religieux. Religieux, non pas païens. Mais des gens religieux, se tenir devant, il faut le faire, se tenir devant un groupe de juifs et leur dire de se repentir. Ça, c'était les gens religieux, c'était les gens qui suivaient Dieu. Est-ce que vous imaginez cela? Combien même, et ensuite, bien sûr, ils sont partis chez les païens pour leur annoncer l'Évangile. Mais ils ont annoncé l'Évangile au peuple de Dieu. Ils ont annoncé l'Évangile partout où ils allaient. Et lorsque nous lisons le contenu de ce qu'ils disaient, ce n'est pas ce que nous sommes tentés de dire aujourd'hui. Et ils n'ont pas lapidé Paul, comme je vous ai dit la semaine dernière, parce qu'il leur a dit « ce n'est pas grave, Jésus est une voie parmi d'autres ». Ajoutez Jésus à votre panthéon de Dieu. Est-ce que c'est cela ce qu'il leur a dit quand il est allé à Athènes? Oui, mais vous avez beaucoup de Dieu, vous avez ajouté Jésus, ce n'est pas grave. C'est un moyen parmi d'autres. Il est important pour nous aujourd'hui de décider ce que nous croyons, de nous plonger dans les fondamentaux de l'évangile. Parce que même lorsque nous disons, mais non, c'est quoi ça, c'est de l'hérésie, mais nous ne pouvons pas dire ça. Nous vivons comme si c'était le cas. Comme nous avons vu hier à la prière, ce qui, si nous sommes conscients de la réalité de l'enfer, si nous sommes conscients de la réalité d'une séparation éternelle d'avec Dieu, nous serons davantage passionnés par l'évangélisation. Comment puis-je avoir une amie intime, un ami intime, des membres de ma famille qui ne connaissent pas le Seigneur, et je ne leur parle jamais du Seigneur? Ça veut dire que je crois que ce n'est pas grave. Ça veut dire que je suis convaincue qu'en dépit de ce que je dis croire, je ne le crois pas vraiment. Je ne le crois pas vraiment. Parce que lorsque je le crois vraiment, cela a un changement dans ma façon de faire et ma façon de vivre. Et c'est important pour nous de nous replonger dans ces fondamentaux. Ça concerne tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons. Les valeurs qui régissent notre existence dépendent de ce que nous avons cru au sujet de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé de l'amour. Nous avons parlé du fait que nos vies viennent de Dieu. Je vous ai fait cette démonstration des gens qui ne connaissent pas Dieu et des gens qui connaissent Dieu. Nous n'avons pas la même source. Nos idées ne viennent pas du même endroit. Nos pensées ne viennent pas du même endroit. Alors comment se fait-il que les chrétiens essayent de penser comme les gens qui ne connaissent pas Dieu? Nous n'avons pas la même source. Notre source, c'est Dieu. Nous avons parlé du fait que notre source, c'est Dieu. Nous avons parlé de l'amour. Cet amour merveilleux, extraordinaire que Dieu déverse dans nos cœurs et que nous sommes appelés à manifester envers les gens. Nous ne sommes pas appelés à être d'accord, mais à être des amoureux. Alléluia! Si nous aimions davantage les gens, ils seraient moins gênés par le fait que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous avons parlé aussi du fait que la souffrance est salutaire. Amen. Alléluia. Si nous voulons être fidèles à Dieu dans notre génération, de toute façon, Jésus nous l'a dit. Si vous m'aimez, ils vous aimeront. Si vous haïs, ils vous haïront. Il y a des gens qui haïssent Jésus. Comment voulons-nous qu'ils nous aiment, nous? Si quelqu'un n'aime pas Jésus et qui vous aime en Jésus et qu'il aime le fait que vous êtes en Jésus, il y a un problème. Ou il n'est pas cohérent ou vous n'êtes pas cohérent. Demandez à votre voisin, est-ce que tu es cohérent? Alléluia. Il y a des choses que nous devons réellement saisir. Nous ne pouvons plus être des chrétiens qui aiment aller à l'église et qui dansent, qui chantent, qui louent et qui rentrent chez eux et c'est fini. Nous devons être des étudiants de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Amen.
Nous devons être des étudiants de la parole de Dieu. Et quand cette parole est réellement à l'intérieur de nous, cela bâtit nos convictions. Des convictions tellement solides que nous ne bougeons pas. Et quand ces convictions sont solides à l'intérieur de nous, elles créent en nous un système de valeurs. Elles créent en nous une structure morale. La question n'est pas de savoir est-ce qu'elle est jolie ou elle n'est pas jolie. La question est de savoir est-ce que c'est en Christ ou ce n'est pas en Christ. Une structure morale. Dites structure morale. Mais c'est important pour nous de savoir quel est l'état du monde dans lequel nous vivons et qui sommes-nous? Nous sommes dans l'église tombés dans une sorte d'humanisme. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Tout le monde est gentil, mais tout le monde n'est pas sauvé. Mais tout le monde a vocation à être sauvé.
Amen.
Mais comment entendront-ils, comment seront-ils sauvés si personne ne leur prêche? Et moi j'ajoute, comment pouvons-nous prêcher si nous-mêmes nous ne sommes pas convaincus? Et comment pouvons-nous prêcher si nous-mêmes nous vivons de telle sorte que nous donnons le mensonge à ce que nous disons? Croyez-moi, les gens du monde savent comment un chrétien est censé vivre. Et ils peuvent ne pas croire en Jésus, mais quand ils vous regardent, ils disent, oui, mais je ne crois pas en Jésus, mais toi, tu dis croire, mais on ne le dirait pas. Hein? Regardez avec moi dans Ézéchiel chapitre 1 pour que nous comprenions quel est l'état de notre monde, que ce soit clair. Ézéchiel chapitre 2, pardon. Il s'agit ici de l'appel d'Ézéchiel. Ézéchiel est un des prophètes que Dieu a utilisé pour parler à son peuple, à une époque où son peuple était totalement à la dérive. Vous vous souvenez de ce peuple que Dieu a sorti d'Égypte avec une main puissante. Et Moïse, le plus grand prophète du peuple de Dieu, a été utilisé de façon extraordinaire par Dieu. Dieu a manifesté sa puissance. Ils ne pouvaient pas dire, on ne sait pas s'il est Dieu ou pas. Et il leur a demandé des choses précises. Et nous allons voir. Ici, donc, ce peuple est totalement à la dérive. C'est un moment où une partie du peuple est déjà partie en captivité. Et ça fait partie des choses que Dieu leur disait, que si vous n'obéissez pas, si vous ne suivez pas, ces choses vont vous arriver. Comme vous regardez Deutéronome 28, il y a des malédictions qui suivent la désobéissance. Et ils sont en ce moment en train de vivre ces malédictions. Ce peuple a eu de grands rois, à commencer par le grand roi David et d'autres qui l'ont suivi. Mais il y a eu aussi des rois qui ont entraîné le peuple dans le péché. Évidemment, le royaume a été séparé en deux à un moment donné. Certains connaissent l'histoire. Vous savez, le royaume de Juda qui est resté fidèle à la famille de David et le royaume d'Israël, les 10 tribus séparées. Les 10 tribus très tôt sont tombées dans l'idolâtrie, dans le paganisme. C'était quelque chose d'absolument horrifiant. Juda, au moment, restait fidèle, mais au fur et à mesure que les rois changeaient, la situation changeait. Mais le peuple, de plus en plus dans l'idolâtrie. Et là, leur péché était arrivé à son comble. Et Dieu avait parlé par plusieurs prophètes, Jérémie étant notamment un des prophètes qui a vécu pendant cette période. Ésaïe l'a précédé à annoncer les mêmes choses, à annoncer la captivité. C'est pour cela que quand vous lisez les livres prophétiques, lisez aussi le livre des rois et chroniques pour que vous compreniez le contexte historique. Parce que si vous ne comprenez pas le contexte historique, vous dites, oh, Dieu est dur avec eux. Non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et quand vous lisez le prophète Jérémie, vous pleurez. Vous pleurez parce que vous sentez le cœur de Dieu et la douleur de Dieu face à ce peuple rebelle. Donc ici, les choses sont arrivées à leur comble. Il y a eu un premier groupe parti en captivité et un deuxième groupe aussi dans Ézéchiel. C'est l'époque aussi où Daniel a été emmené à Babylone. Mais il restait un certain nombre de personnes encore à Jérusalem et un roi qui a été mis en place par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce roi a décidé de se révolter contre Nebuchadnezzar, en dépit des avertissements du prophète Jérémie, qui lui disait que cette captivité vient de Dieu, c'est la punition pour vos péchés, et vous allez rester 70 ans à Babylone. Ce n'est pas la peine de te révolter parce que tu ne vas pas pouvoir le faire, Dieu n'est pas avec toi. Mais il s'est révolté parce qu'il y a eu d'autres faux prophètes qui lui ont dit, vas-y, l'Éternel est avec toi. Et les gens qui prophétisaient même dans le temple en disant que 2 ans, c'est tout, dans 2 ans, ils sont tous de retour. Jérémie a dit 70 ans, non, eux, ils ont dit 2 ans. Il faut décider qui on va croire. Il y a beaucoup de prophètes. Il faut décider qui parle de la part de Dieu. Et ceux qui parlent de la part de Dieu ne sont pas nécessairement ceux qui vous disent que vous êtes merveilleux. Amen. Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Donc ici, la situation est assez difficile. Et Ézéchiel est un prophète que Dieu a appelé en captivité. Jérémie était une génération précédente, toujours vivant, prophétisait, mais lui est resté à Jérusalem. Mais Ézéchiel a été emmené en captivité quand il était un jeune homme. Et c'est en captivité que Dieu l'a appelé. Donc ici, ce que nous allons lire, ça se passe à Babylone. Et il est parmi les exilés. Et les exilés ont aussi là-bas des faux prophètes qui leur disaient, vous allez bientôt retourner. Et Dieu a dit à Ézéchiel, ils ne retourneront pas d'aussitôt. Donc, l'appel de Jérémie, l'appel d'Ézéchiel, il y a des choses ici qui sont très importantes et qui nous permettent de voir où nous en sommes, nous, dans notre génération, pour que nous n'ayons pas d'illusions, que nous puissions nous tenir fermes, que nous puissions prendre les décisions qui conviennent, qui sont nécessaires pour vivre une vie agréable à Dieu. Alléluia. Vous êtes dans Ézéchiel chapitre 2?
Oui.
Si vous n'y êtes pas, écoutez attentivement. Je vous promets, ça vient de la Bible. Regardez, c'est noir derrière. Il me dit, alors il vient au chapitre 1, il vient de voir une vision absolument extraordinaire, qui est une vision de céleste, une vision de la gloire de Dieu, une vision des chérubins, et qui représentait toute la création de Dieu. Lisez-le, je vous assure, c'est mieux que Star Wars. Chapitre 2. Donc, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi. Évidemment, j'aime beaucoup Jérémie. Quand Ézéchiel a vu tout ça, il est tombé. Les gens disent, pourquoi il tombe quand le Saint-Esprit le touche? Il tombe parce que la puissance de Dieu le fait tomber. Il a dit à la fin du chapitre 1 qu'à la vue de tout cela, il est tombé sur sa face et il a entendu une voix qui lui parlait. Voilà ce qu'il lui a dit. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui... « qui me parlait. Il me dit, au verset 3, écoutez attentivement, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. C'est comme ça que Dieu voyait son peuple. Les gens qui voulaient leur faire plaisir, les gens qui voulaient être appréciés par le roi, disaient au roi, oh, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Va à la guerre, Dieu va nous faire triompher, Dieu est avec nous. Et le seul qui disait la vérité au roi, Jérémie, le roi l'a mis en prison. Après, ils l'ont jeté dans un puits, il a failli mourir. Glory to God, n'avait pas encore souffert. Alléluia. Alors Dieu, lui, a une autre perspective. Dieu dit concernant son peuple, les peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi, eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Écoutez bien ceci, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Est-ce que vous pouvez le dire à votre voisin? Ne les crains pas.
Ne les crains pas.
Et ne crains pas leur discours. Maintenant, écoutez encore la description que Dieu fait de son peuple. Son peuple. Il n'est pas en train de parler des peuples païens aux alentours. Il parle de son peuple. Il dit les concernant. Ne crains pas leur discours, ne t'effraie pas de leur visage. Quoi qu'ils soient une famille... Je reprends. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoi que tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions. Non, ne pensez pas à votre voisine. Et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours. Et je déclare cela sur l'église aujourd'hui. Ne crains pas leur discours. Il est temps que l'église cesse de craindre le discours des gens du monde. Ne crains pas leur discours. Et ne t'effraie pas de leur visage. Quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles? Tu leur diras mes paroles.
Amen.
Non pas leurs paroles qu'ils ont envie d'entendre. Non pas des fausses prophéties.
Amen.
Non pas une fausse doctrine, une fausse théologie qui correspond à la doctrine humaine qui est populaire, que tout le monde aime. Non, tu leur diras mes paroles. Mes paroles. Qu'ils écoutent ou qui n'écoute pas. Nous ne sommes pas censés changer le discours pour les amener à écouter. Nous ne sommes pas censés atténuer l'évangile, diluer la parole de Dieu pour les attirer, pour donner l'impression que nous sommes modernes. Nous sommes de notre siècle. Non. Dieu a dit, tu leur diras mes paroles. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Car ce sont des rebelles. Et c'est ce que nous étions tous.
Amen.
En dehors de Christ. Que Dieu nous garde de le rester en Christ. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Nous allons continuer un peu plus tard. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Dieu fait une distinction très nette entre Ézéchiel et ce peuple. Non seulement cela, Dieu donne une description très claire, sans ambiguïté, de son peuple. Et quand nous voyons ce que Dieu dit ici, il le dit très clairement, ce sont des rebelles. Le monde dans lequel nous vivons est en rébellion contre Dieu. C'est la réalité. Est-ce que Dieu a cessé d'aimer son peuple? Non. Il n'a pas cessé de les aimer. Mais il a été très clair quant à leur état spirituel. Nous devons être très clairs quant à l'état spirituel de l'Église et quant à l'état spirituel du monde dans lequel nous vivons. Le monde est en rébellion contre Dieu, point. Si nous décidons de faire comme eux, de parler comme eux, de vivre comme eux, nous nous mettons en rébellion contre Dieu, point. Et ce qui est frappant lorsque vous lisez ces passages, c'est cet amour de Dieu, cet amour persistant de Dieu qui va continuellement à la recherche de son peuple rebelle. Et il va montrer des choses à Ézéchiel qui sont proprement écœurantes, les choses que son peuple faisait. Mais dans la phrase suivante, il va donner une promesse de restauration. Et c'est cet amour-là que nous sommes censés manifester pour notre génération. Mais sans faire de compromis. Et nous vivons dans une génération rebelle. Claire et nette. Qu'est-ce que nous allons faire? Devenir aussi rebelle? Et si nous ne faisons pas clairement la distinction, si nous ne comprenons pas, si nous ne décidons pas, voilà, c'est comme ça. C'est très facile d'être séduit. Très facile. Très facile d'être séduit. Il est important pour l'Église de ne pas se laisser séduire. Alors, ce que j'aime ici, c'est que Dieu a donné une très bonne description de son peuple. Il a dit, ce sont des enfants à la face impudente. Il a dit que leur cœur est endurci. Ouf. Il répète plusieurs fois une famille de rebelles. Ils se sont révoltés contre moi. Leur père a péché contre moi et ils continuent encore à pécher contre moi. Ce que nous voulons, c'est voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit ici. Ce n'est pas de la popularité de l'Église. Ce n'est pas de l'amour que les gens du monde peuvent avoir envers l'Église. Ce n'est pas de la manière dont les gens me perçoivent. Moi, est-ce que je suis chrétien? Mais est-ce que les gens me trouvent bien? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu voit et comment est-ce que Dieu veut que nous fonctionnons dans notre génération. Et nous ne pouvons pas dire, même nous sommes horrifiés par les choses que nous voyons. Mais si nous ne voyons pas avec les yeux de Dieu, nous allons facilement nous laisser attirer. Vous savez, la répétition est quelque chose qui est très intéressante. Quelqu'un va vous dire quelque chose de totalement saugrenu aujourd'hui. Vous allez faire, mais attends, il va vous dire la même chose demain. Vous allez réagir, la même chose demain, vous allez réagir. Au bout de 2 mois, vous allez finir par faire, bon, ce n'est pas grave. Au bout de 4 mois, vous allez commencer à aller dans son sens. Au bout de 6 mois, vous allez trouver que ceux qui ne vont pas dans son sens sont vraiment méchants. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens et des pasteurs et des églises qui prêchent le fait que déclarer que le monde est rebelle, c'est manquer d'amour. Et que c'est pas l'amour de Jésus. Jésus est amour. Jésus est amour, mais Jésus nous appelle à la repentance dans son amour. Et c'est parce qu'il est amour qu'il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver parce que nous en avions besoin et parce qu'il n'était pas d'accord avec notre façon d'être. Dieu est très clair quant à l'état de son peuple. Il est très clair aussi quant à l'attitude possible de son peuple. Déjà, lorsqu'il a appelé le prophète Ésaïe, c'est très intéressant. Il a appelé le prophète Ésaïe. Ésaïe aussi a une vision de trône de Dieu. C'était extraordinaire. Ésaïe était tellement émerveillé. Dès qu'il a entendu que Dieu cherchait quelqu'un à envoyer, il s'est proposé. Alléluia. Il a dit, oh, voici, envoie-moi. Il a dit, OK. Mais en l'envoyant, il a mis en garde. Il a mis en garde contre son peuple en lui disant, ils ne vont pas t'écouter. Et une centaine à peu près d'années plus tard, il appelle Ézéchiel et dit à Ézéchiel, qui t'écoute, qui ne t'écoute pas, tu leur diras ce que je dis. Et ça, c'est le rôle de l'Église. Amen. Qui nous écoute, qui ne nous écoute pas, nous devons dire les paroles du Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas appelés à changer les paroles pour les amener à nous écouter. Et en même temps, au sein de l'Église, nous devons veiller à nous-mêmes. Parce que nous aussi, nous devenons facilement un peuple rebelle. Regardez ce que Dieu dit plus tard à Jérémie. Un peu plus tard à Jérémie, dans ce passage, au verset 9. Est-ce que vous y êtes? Vous êtes au verset 9, chapitre 2, verset 9. C'est très intéressant. Il décrit son peuple, il décrit l'attitude possible de son peuple. Il dit à Ézéchiel, pardon, Ézéchiel. Si je dis Jérémie, dites Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel comment réagir vis-à-vis ce peuple qui t'écoute, qui ne t'écoute pas, dis ce que je te dis de dire. Alléluia. Mais ensuite, il parle à Ézéchiel de lui-même. Il dit à Ézéchiel au verset 8, « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. » L'Église a besoin de nouveau de commencer à écouter ce que Dieu dit. Amen. Nous écoutons un peu trop les autres. Nous écoutons un peu trop les discours à la télévision. Nous écoutons un peu trop les objections des athées. Nous écoutons un peu trop la logique de notre société. Il est temps de commencer à écouter le Seigneur. Dieu ne change pas. Les hommes changent. Les sociétés changent. Les générations changent. Quand vous êtes un étudiant de l'histoire, vous ne vous laissez pas impressionner par ces choses. Parce que cela s'est déjà produit, ça a changé, ça va changer encore. Est-ce que vous me suivez? Mais ce qui compte, c'est que l'Église, dans sa génération, reste fidèle à l'Évangile. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça passera. Mais est-ce que nous passerons avec? Ou est-ce que nous resterons fidèles? Est-ce que nous resterons fidèles à l'Évangile? Est-ce que nous resterons fidèles à l'Évangile? Alléluia, merci toi et moi, nous resterons fidèles à l'Évangile. Thank you, Lord. Ici, chacun parle pour lui. Hein. Je ne peux pas être certaine que vous resterez fidèles à l'Évangile. C'est à vous de le dire, n'est-ce pas? Amen. Dieu dit à Ézéchiel, parce que vous savez, c'est incroyable ce que les gens imaginent que le salut est dans la majorité. Le salut n'a jamais été dans la majorité. Quand Jésus est venu sur terre, il était minoritaire. Tellement minoritaire que même sa famille ne croyait pas en lui. Il dit, mais je suis un seul chrétien de ma famille. Et alors, comme Jésus. Il a fallu du temps pour que sa famille commence à comprendre. Et à voir, ah, d'accord. Ah, il y a un moment où ses frères et sa famille, ils étaient venus pour le ramener à la maison. Il dit, mais il abuse. Et Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel, ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle. Il vient de lui dire que son peuple est rebelle et après il se tourne vers lui pour dire, toi ne sois pas comme ça. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Et c'est la parole de Dieu pour l'Église aujourd'hui. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. La parole de Dieu pour chacun de nous aujourd'hui. On ne peut pas dire, oui, mais c'est tel pasteur qui m'a dit que, qu'importe. Oui, mais c'est tel prophète qui prêche. Il y a toutes sortes de prophètes. Il y en a un qui prédisait la fin du monde pour la fin de l'année dernière. Nous avons le choix qui nous écoutons. Le roi Zédécias, c'était quoi en français Zédécias? Sédécias. Le roi Sédécias avait le choix d'écouter Jérémie ou d'écouter les faux prophètes. Il faisait même appeler Jérémie, il sortait Jérémie en cachette de sa prison pour qu'il vienne lui dire, est-ce qu'il y a une parole du Seigneur? Et Jérémie lui dit, oui, le Seigneur dit, il faut que tu te rendes. Si tu te rendes, tu vas être sauvé, tu vas mourir en paix, mais si tu ne te rends pas, il ne s'est pas rendu. Après, les faux prophètes, elle, il disait, ne leur dis pas, s'ils demandent ce que j'ai vu avec toi, ne leur dis pas. Vous voyez à quel point les gens n'aiment pas la vérité. Le fait venir les faux prophètes, ils les écoutent. Il y a une prophétie ici, quand Ézéchiel, Dieu donne une vision, une parole à Ézéchiel. Ézéchiel décrit exactement, Ézéchiel est à Babylone. Il décrit exactement comment Sédécias sera capturé. Et c'est comme ça que ça s'est passé à Judas. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, il a fini par voir ses enfants tués devant lui et ses yeux lui ont été ôtés. La dernière chose qu'il a vue, c'était ses enfants tués devant lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu écouter le Seigneur. nous allons écouter le Seigneur. Amen. Dieu dit concernant son peuple que ce sont des ronces et des épines, des scorpions, une famille de rebelles. Mais quant à Ézéchiel, il lui dit, ne sois pas rebelle. Je vais vous laisser cette parole aujourd'hui, que ça pénètre dans votre cœur. Ne soyez pas rebelle. Ne soyez pas rebelle. Nous avons le choix. Nous ne sommes pas les esclaves de notre génération, ni de notre entourage. Chaque homme a la capacité de connaître Dieu et de faire le choix de ne pas être rebelle envers Dieu. De faire le choix. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements, il était écrit. Et il a mangé ce rouleau et le rouleau a été doux sur ses lèvres. En dépit du fait que la parole que Dieu avait pour ce peuple était une parole sévère. Le fait que lui se soit mis en accord avec Dieu a fait en sorte que cette parole a été douce sur ses lèvres quand il a mangé. Nous avons besoin de décider de nous séparer. Dites séparer. Nous séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. En réalité, ce que Dieu dit ici à Ézéchiel, il appelle à la séparation. Les valeurs qui découlent de l'évangile. Nous avons parlé de l'amour, nous avons parlé du fait que tout ce que nous avons vient de Dieu, nous avons parlé de la souffrance. Et une des valeurs essentielles, c'est la séparation. Dieu nous a donné une description très claire de son peuple. Ensuite, il y a le prophète qui est appelé à être séparé de ce peuple. Si nous ne sommes pas séparés du monde, nous ne pouvons pas annoncer l'évangile au monde. Et Ézéchiel a choisi d'être séparé. Il dit, toi ne sois pas rebelle. Eux le sont, mais toi ne le sois pas. Et beaucoup m'ont dit, oui, mais pasteur, c'est Dieu. Tout le monde pense que, tout le monde dit que dans mon école, ils pensent qu'au travail, ils pensent que Dieu dit simplement, ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle. Parce que nous avons la possibilité de dire non au monde et de dire oui à Dieu. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 6. Et 2 Corinthiens, c'est après 1 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, il y a quelque chose ici qui est très très fort. Au verset 14. Nous savons que cette église de Corinthe est une église qui était loin d'être parfaite, pour dire les choses gentiment. Et l'apôtre Paul a eu à les reprendre sur beaucoup de choses. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on lit tous ces passages, on est en mesure de comprendre comment Dieu veut que nous vivions. Les circonstances changent selon les générations, selon les cultures, selon les sociétés, mais les principes sont les mêmes. Les principes sont les mêmes. Il n'y a rien auquel nous sommes confrontés aujourd'hui que d'autres n'ont pas eu auquel d'autres n'ont pas eu à faire face auparavant. Nous, en réalité, nous vivons dans une génération où c'est plutôt agréable d'être chrétien, si on a un peu de force à l'intérieur. À l'époque où eux, ils vivaient, juste parler de Jésus, c'était aller en prison. Il y a des endroits au monde aujourd'hui, c'est comme ça. Thank you, Lord. 2 Corinthiens 6, au verset 14. Il nous a dit ceci. Je suis dans 1 Corinthiens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Nous avons déterminé le fait que Dieu a une perspective différente et que nous devons adopter sa perspective. Et quand Dieu regarde un monde qui s'est révolté contre lui, il les considère comme étant rebelles. Et c'est parce que nous étions rebelles que Jésus est venu. Si nous n'avions pas été rebelles, Jésus ne serait pas venu. Simple. Et quand nous venons à Christ, nous sommes censés sans cesser d'être rebelles. Et ça, on en parlera un peu plus tard. Mais l'Église aussi peut facilement devenir rebelle. si elle s'éloigne des principes de Dieu. Et si elle ne comprend pas le principe de la séparation. Nous allons voir, regardez dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » La référence ici, bien sûr, bon, c'est quand un joug étranger? La référence ici, c'est une référence agricole, lorsque vous mettez deux animaux sous le même joug et ils sont différents. Vous avez un bœuf et vous avez une âne. Comprenez que ça ne va pas être équilibré. Ça va être difficile de les faire avancer ensemble. Et c'est l'image qui est donnée ici d'un chrétien qui s'associe à un non-chrétien, qui entre en communion intense. Car quel rapport? Écoutez la logique. C'est pour cela que je vous dis que les circonstances changent, mais les principes restent les mêmes. Ils nous disent aussi, quel rapport? Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que nous sommes pareils, tout est pareil. Quand vous écoutez Oprah, mais où est le problème? Je lui dis, vous ne pouvez, j'ai vu une vidéo d'elle où elle disait, vous ne pouvez pas dire que Jésus est le seul. Il y a toutes ces voix qui sont bonnes. Et quand elle est invitée par les pasteurs des méga-églises, nous sommes en train d'envoyer le message à l'église que l'évangile d'Oprah est tout à fait acceptable. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, vous n'avez rien raté. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Dieu fait une séparation nette. Il y a ceux qui sont à Christ, il y a ceux qui sont des infidèles. Maintenant, dans la Bible, on ne va pas vous dire d'aller tuer les infidèles, d'aller les forcer à se convertir. On va vous dire d'annoncer l'évangile et de montrer l'amour de Jésus. Alléluia! Oh, Jésus est merveilleux. Mais il faut quand même être conscient de la réalité des choses. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Qu'à quel rapport, écoutez bien, y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est important de comprendre ces choses. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous allons à l'église. Mais à cause du sang de Jésus qui a été versé pour la rédemption de l'humanité. Et que lorsque l'on vient à Christ, nous entrons dans le royaume de Dieu, nous devenons participants à la nature de Dieu, nous passons des ténèbres à la vie, il y a une réalité spirituelle. Et combien même on peut aimer le monde comme Jésus a aimé le monde, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de différence. C'est dire que Jésus a perdu son temps en venant. Voici ce que l'apôtre Paul leur dit. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et ça, c'est ce qui m'exaspérait quand je n'étais pas convertie. Et que ces chrétiens audacieux venaient me parler et me disaient que j'étais dans les ténèbres. Et je voulais leur arracher les yeux. Je bénis Dieu pour leur force et leur audace et leur absence de compromis. Parce que dès qu'il commençait, puisque je l'avais déjà entendu, so I'm in the darkness, right? Yeah, you are in the dark. Excuse me. Ah non, mais ça m'a exaspéré. J'ai grandi à l'église. J'étais dans la chorale. Et j'aimais chanter. Vous savez combien de danses j'ai fait à l'église quand j'étais petite? Dans mon église anglicane, on dansait beaucoup. J'ai fait des démonstrations à Béa et elle n'en revient pas. De temps en temps, ça me prend et je lui fais une démonstration. Quand on faisait les offrandes, ici, on vient faire les offrandes. Non, mais nous, on faisait les offrandes. On faisait les offrandes. On dansait. On amenait nos offrandes et on dansait, et on dansait, et on dansait. Mais j'ai fait tout ça. Et on dansait, on se retournait, on dansait encore, et on dansait encore, et on dansait encore pour amener nos offrandes. À le temps de l'offrande, toujours joyeux. Alors quand on faisait les offrandes spéciales, oh, c'était la fête. Et on amenait nos offrandes, et on se retrouvait sur le chemin, et on dansait ensemble, et on dansait encore, et on amenait nos offrandes, et on déposait, et on disait, oh merci Seigneur, et on dansait. Et j'ai fait tout ça. Et après, quelqu'un ose venir me dire que j'étais dans les ténèbres. Non, mais j'ai dansé, moi, à l'église. Il est vrai que j'ai eu une période où je commençais à trouver que la Bible était un livre de mille et une erreurs. une période où je cassais les chrétiens. Quand ils venaient me voir, je lisais des passages exprès pour les casser. Et je les cassais bien. Et c'est pour ça que j'ai compris, quand je me suis convertie, qu'il fallait connaître la parole de Dieu. Et je leur mettais la confusion. Et le diable me rappelait les versets. Parce que je me rappelais bien les versets. Je disais, oui, mais dans 2 Timothée 3, il dit ceci. Mais dans Apocalypse, je me rappelais les références des versets. Et au monde spirituel, c'est une réalité. Les ténèbres, la lumière, c'est une réalité. Je bénis Dieu pour ces gens qui n'ont pas hésité à me dire que j'étais dans les ténèbres. C'est vrai que ça m'énervait. Mais ils avaient raison. Et nous devons le savoir, nous devons en être conscients. Et cesser de renégocier l'évangile. Quel rapport entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ce sont les catégories bibliques. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Me suivez? Nous sommes le temple du Dieu vivant. Alors, de quel droit vous capitulez devant vos camarades et dire, ouais, mais bon, tu sais, c'est pas grave. Tant qu'on croit en Dieu, on n'est pas sauvé parce qu'on croit en Dieu.
Amen.
Si vous n'avez pas compris l'évangile, je vous le dis aujourd'hui. On n'est pas sauvé parce qu'on croit en Dieu. On est sauvé parce qu'on croit en Jésus. On parle avec les gens, oui, mais non, mais ils croient en Dieu, c'est pas grave. Non, mais est-ce qu'ils croient en Jésus? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvions pas être réconciliés avec Dieu. Parce que l'homme a péché et a été séparé de la gloire de Dieu. Romains nous le dit, tous ont péché et ont été séparés de la gloire de Dieu. Le seul moyen de retrouver la relation, la communion avec Dieu, c'était que quelqu'un enlève cette séparation, quelqu'un paye le prix, quelqu'un porte nos péchés, quelqu'un porte notre punition. Et c'est pour cela qu'il nous a dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Victime expiatoire qui a servi de propitiation pour nos péchés. C'est une réalité. C'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit, nous ne racontons pas des fables habilement conçues, nous étions témoins de sa majesté. Il est important que les chrétiens le saisissent. Nous ne sommes pas là parce que Jésus nous aide à dormir. Nous sommes là parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne vient au Père si ce n'est par lui. Et ce n'est pas parce que nous sommes un groupe d'élite. Qui sommes-nous? Nous ne méritons strictement rien. Tout est par grâce. Mais nous devons le savoir. Nous vivons dans une génération rebelle. Nous ne pouvons pas adapter l'évangile pour que ce soit agréable. Mais qui nous dit que ça doit être agréable? Si c'était agréable, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Si c'était agréable, il n'aurait pas tué. Quasiment tout, l'histoire nous dit que quasiment tous les apôtres ont été martyrisés. Tous sont morts. Tous ont été tués, sauf l'apôtre Jean. Le seul qui est mort de mort naturelle. C'est parce que leur message était agréable? Mais parce qu'ils n'ont pas hésité, au milieu d'une génération hostile, à déclarer la parole de Dieu, l'évangile a gagné le monde entier. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, ayant bénéficié de tout cela, nous ne pouvons même pas... Mais moi, j'aime ceci. Donc, les choses que les gens acceptent dans leur vie qui les éloigne de Dieu. Je me dis, mais est-ce qu'il a rencontré Jésus? C'est quand même incroyable. Ça, Jésus, et tu choisis ça? On se dit, mais il faut peut-être une grève de cerveau? Et tout cela, pourquoi? Parce que nous passons notre temps, au lieu d'écouter Dieu, nous passons notre temps à écouter ceux qui ne sont pas d'accord avec Dieu. Et ils finissent par nous convaincre. Il est temps que l'Église comprenne. Nous vivons au milieu d'une génération infidèle, nous vivons au milieu d'une génération rebelle. Et l'Église elle-même sombre dans la rébellion. C'est important de le saisir. De toute façon, dans l'Église, il y a toujours eu ces combats au sein de l'Église. Ceux qui ont regardé la série « L'Évangile est une histoire » m'ont entendu raconter l'histoire d'un disciple de l'apôtre Jean, Polycarpe, qui un jour a rencontré un hérétique notoire et connu qui niait la divinité du Christ, qui niait le Dieu de l'Ancien Testament parce qu'il n'avait rien compris, Arius, et il a rencontré, il a changé de trottoir. Et l'autre lui a dit, « Ah, mais tu me reconnais ? Oui, je te connais, le fils aîné du diable. » Et il se réclamait de Christ, mais il changeait l'évangile pour correspondre à sa pensée et à la pensée de son siècle. Cela a toujours existé au sein de l'Église, mais au sein de l'Église, chacun doit prendre position et dire, je ne serai pas rebelle contre la parole de Dieu. Je ne serai pas rebelle contre l'évangile. Je ne serai pas rebelle. Ni dans ma façon de parler, ni dans ma façon de vivre, ni dans mes convictions les plus profondes. Dites séparation.
Séparation.
Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici? C'est pourquoi... Non, il dit ceci au verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Regardez-vous dans le miroir chaque jour. Dites-vous, dites, je suis le temple du Dieu vivant. Je suis le temple du Dieu vivant. C'est parce que les chrétiens manquent de confiance en eux-mêmes. Ils ont oublié qui ils sont en Christ, qu'ils commencent à se laisser intimider. Non, nous n'avons pas à nous laisser intimider. Nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, mais un esprit de force et un esprit de puissance. Les gens qui essaient de vous intimider aujourd'hui sont les mêmes qui vont venir s'agenouiller demain pour dire « prie pour moi ». Ah oui, je l'ai vécu. Au verset 17, c'est pourquoi, non, il continue au verset 16, « comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu n'a pas varié. Quand il a sorti son peuple d'Égypte, qu'est-ce qu'il leur a dit? Dans Deutéronome 6, 14, il leur a dit ceci. Je vais aller très vite. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Dès qu'il a sorti son peuple de l'Égypte, il leur a dit, ne suivez pas les dieux des peuples qui sont autour de vous. Ne faites pas comme eux. Ne suivez pas leurs coutumes. Ne suivez pas leurs habitudes. N'adorez pas les mêmes dieux. Ne les suivez pas. Mais il y a eu des gens qui n'ont pas écouté. Tout au long de l'histoire de son peuple, ils n'ont pas écouté. Là, au peuple, pendant le temps d'Ézéchiel, ils se retrouvent dans une situation difficile. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté le Seigneur. Ils ont suivi les peuples autour. Ils ont tellement suivi les peuples autour qu'ils ont eu un roi qui s'appelait Akaz. Dites Akaz. Akaz était un roi particulièrement méchant et particulièrement mauvais. Et parce qu'il était mauvais, Dieu a laissé les armées étrangères envahir son peuple. Et la solution d'Akaz? Se repentir? Non. La solution d'Akaz, c'était d'aller demander l'aide du roi d'Assyrie. Pire que ça, Akaz va à Damas pour rencontrer le roi d'Assyrie qui vient d'envahir Damas. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, parce qu'il a été attaqué par la Syrie, il regarde les idoles, il regarde l'autel, il envoie une description de l'autel des dieux de Damas à son souverain sacrificateur et à son prêtre et lui demande de copier cet autel. Et quand vous savez que tout ce qu'il y a dans le temple, Dieu a donné des instructions précises sur la manière de les construire, de les fabriquer, de les mettre en place. Tout ce qu'il y a dans le temple. Lui a décidé de faire un autel à l'image de l'autel d'un Dieu païen. Et il l'a fait installer dans le temple. Quelle est sa logique? Sa logique, c'est... Puisque leur Dieu leur donne la capacité de me vaincre dans la bataille, ils doivent être très puissants, je vais les adorer. Ça, c'est la logique de l'Église aujourd'hui. Nous voyons les gens qui ne suivent pas Dieu. Nous regardons leur vie. Nous disons que ouais, puisqu'ils ont ça, et puisqu'ils ont ça, et puisqu'ils réussissent avec ça, puisqu'ils font ça, nous aussi nous allons faire comme eux. Et Akaz a amené son autel dans le temple. Et ce qui est intéressant ici, lorsqu'on parle de la rébellion de l'Église, c'est de dire que tous ces gens, pendant toute leur histoire, ils n'ont jamais détruit le temple. De temps en temps, il y avait des rois fous, un peu comme Akaz, à un moment donné de sa vie, il a fermé les portes du temple. Mais en général, les sacrifices continuaient dans le temple. C'est comme nous, on continue à aller à l'Église, on chante, on dit Alléluia, on lit un peu notre Bible. Mais on adore d'autres dieux. Ils ont continué les sacrifices dans le temple, mais souvent, ils mettaient d'autres autels, comme Akaz, il a mis l'autel au dieu de Damas. Et après, ils ont mis des idoles à l'intérieur du temple, le même temple que Salomon a consacré. Le même temple qui était tellement rempli de la gloire de Dieu que les prêtres ne pouvaient pas se tenir debout pour offrir les sacrifices. Ils étaient par terre, tellement la présence de Dieu a rempli son temple. Quand le peuple de Dieu s'est rébellé contre Dieu, la gloire de Dieu est partie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire en sorte que ça marche, pour faire en sorte que les choses bougent, comme on fait aujourd'hui dans l'église, pour que ça marche, pour que ça bouge, on va utiliser toutes sortes de moyens, on va renégocier l'évangile, on va chercher des choses mondaines pour pouvoir attirer la foule. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à mettre des idoles dans le temple, ont commencé à mettre des autels étrangers dans le temple, mais ils ont continué leur sacrifice. Ils ont mis des hauts lieux partout, mais ils ont continué leur sacrifice dans le temple. Ils ont continué leur sacrifice. Nous pouvons continuer à chanter, à louer, à adorer et mettre en place toutes sortes de choses qui ne sont pas de Dieu. Et changer la doctrine biblique et penser que tout va bien. Tout va bien. Dites séparation. Le peuple de Dieu a refusé de se séparer des gens autour et ont imité ceux qui les entouraient. Et le résultat, c'est l'exil. Dans 2 Ah oui, le résultat. Je vais vous lire un passage. Enfin, je ne vais pas vous lire le passage, nous n'avons pas le temps. Simplement, dans deux chroniques, il nous est, il est question de l'époque où le roi d'Assyrie est venu prendre les 10 tribus en otage, les amener en exil. Et la raison qui est donnée pour cela, c'est cela que je veux vous lire. Il nous a dit ceci, « Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte. Ils suivirent les coutumes, écoutez bien, ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Ils ont suivi les coutumes des autres. Ils ont suivi la façon de faire des autres et ils ont cessé d'écouter Dieu. Ils ont voulu ressembler aux gens qui les entouraient. Ils ont voulu faire comme les peuples aux alentours. » Ils ont oublié que eux étaient le peuple de Dieu. Ils ont oublié que eux avaient une alliance avec Dieu. Ils ont oublié les promesses de l'Éternel. Ils n'ont pas voulu suivre ses voies et suivre ses règles. Ils ont préféré négocier des alliances avec des dieux étrangers. Et ils sont même allés tellement loin qu'ils ont pris, il y a des fois dans leur histoire, où au lieu d'appeler à Dieu, ils ont décidé d'aller prendre les trésors du temple pour offrir à un roi étranger, païen, pour qu'il les protège. Est-ce que vous me suivez? Pour qu'il les protège. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui en tant qu'Église. Et l'Église doit décider en qui elle met sa confiance et avec qui elle veut traiter alliance. Est-ce que nous voulons traiter alliance avec Dieu ou est-ce que nous voulons traiter alliance avec le monde? Et cela nous demande la séparation, dites séparation. Lorsque nous ne nous séparons pas, nous nous séparons. Séparer ne veut pas dire qu'on quitte sa famille, on ne parle plus à ses parents, on ne parle plus à ses frères et sœurs parce qu'on est converti. Ah, mais ce sont des païens, je me suis séparé. Non. La séparation veut dire que nous nous séparons de tout ce qui n'est pas pur. Nous prenons conscience de la différence que Dieu a opérée à l'intérieur de nous à cause de Jésus. Et nous décidons, et nous prenons conscience aussi de l'état de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de l'état de ceux qui ne marchent pas avec Dieu, et de ce que Dieu a fait avec nous. Et en prenant conscience de cela, nous faisons le choix de vivre différemment. Différemment, différemment. Et quand on est séparé, veut dire aussi dans certaines situations, se séparer de certaines fréquentations. Il y a quand même des fréquentations dont il faut se séparer. Et il y a des endroits aussi dont il faut se séparer. Parce que si on ne le fait pas, on fait ce qu'Israël a fini par faire, se laisser influencer par les gens qui nous entourent. Et la séparation est une valeur fondamentale. Fondamentale, qui doit régir la vie du chrétien. Nous entendons prêcher toutes sortes de bonnes choses que Dieu veut faire dans nos vies, et c'est vrai. Mais ces bonnes choses ne vont jamais se réaliser tant que nous n'avons pas une vraie vie de séparation. De séparation. Pensez-y. La parole de Dieu nous dit, quel est le lien entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres? Quel est le lien entre la lumière et les ténèbres? Entre Christ et Bélial? Entre le fidèle et l'infidèle? Si vous voulez bien regarder rapidement dans Romains chapitre 12, séparation. Je veux que vous le voyez, je l'ai cité la semaine dernière, mais je veux que vous le voyez dans vos Bibles. Dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, il nous a dit ceci. Je vous exhorte donc, frères. Je vous encourage, je vous supplie, s'il vous plaît, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part en culte raisonnable. Vous offrez en culte à Dieu, en lui offrant votre corps saint, saint et agréable à Dieu. Au verset 2, et c'est ici la séparation dont nous parlons. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire littéralement, ne soyez pas comme les gens de votre génération. Ne vous identifiez pas à une société qui ne connaît pas Dieu. Ne vivez pas comme eux, ne pensez pas comme eux, ne partagez pas leurs valeurs. Et qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Il nous dit, soyez transformés. Tout ce que nous faisons doit nous amener à la transformation. Quand les gens donnent leur vie au Seigneur, ils ont beaucoup d'idées. Oui, mais moi je pense que, oui, oui, tu penses ça, mais il faut que tu sois transformé. Alléluia. Vous imaginez la transformation partie de celle qui était agacée par les chrétiens à celle qui prêche l'évangile.
Alléluia.
Ça, c'est transformation. Et ce n'est pas fini.
Amen.
Ha, 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 ce n'est pas fini.
Amen.
Dieu veut que nous soyons transformés. Les idées que vous avez quand vous arrivez au Seigneur, c'est bien, mais il faut que ça change. Ce que vous voulez le dire à votre voisin, il faut que ça change.
Il faut que ça change.
Il faut que ça change. Il faut que ça change. Si ça ne change pas, vous retournerez dans le monde. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Si ça ne change pas, vous retournerez dans le monde. C'est clair. C'est clair. C'est une évidence. Croyez-moi, au bout de 20 et quelques années de conversion, on voit certains schémas. On voit certains schémas. Je bénis le Seigneur. Quand je suis venue au Seigneur, j'avais beaucoup de questions. Je n'étais pas d'accord avec grand-chose. J'étais d'accord que Jésus était le Seigneur, mais pour le reste, non. Et pourquoi pas ci, et pourquoi pas ça, et pourquoi pas ça, je bénis Dieu qui m'est transformé. Parce que si j'avais gardé ces idées, je ne serais pas là. Donc la parole de Dieu nous dit, voilà, vous devez être différent des gens du monde. Séparez-vous, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable, et parfait. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Pas la confusion mentale. Pas être tiraillé. Vous aimez Jésus, mais vos amis pensent que vous aimez Jésus, mais si je dis que Jésus, ils vont dire que vous aimez Jésus, mais non. Quand on est transformé par le renouvellement de l'intelligence, en d'autres termes, vous devez changer de logiciel de fonctionnement. Changer de système d'opération. Quand vous passez de Mac à Windows, c'est radical. Encore plus radical quand vous passez sur Linux.
La personne ne connaît. Hein? Oui, oui.
Encore plus radical. Dieu nous demande de changer de système d'opération. Changer de manière de penser, manière de voir. Que lui ne voit pas les choses comme le monde voit les choses. Nous sortons du monde et maintenant, il veut nous nettoyer. Et c'est important de l'accepter. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est au fur et à mesure que notre intelligence est renouvelée que nous commençons à vivre différemment. Que nous commençons à savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Que nous commençons à aimer ce qui est bon. Que nous commençons à être déconditionnés. Nous avons été conditionnés par le monde. Et Dieu veut enlever ce conditionnement. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui, pour moi, étaient impossibles quand je suis venue au Seigneur. Je les trouve parfaitement normales maintenant. Qui a changé? Ce n'est pas Dieu qui a changé. C'est nous qui changeons. Glory to God. Et il est impératif que nous laissions Dieu nous changer. La séparation. Je vous invite à méditer cette semaine sur la séparation. Est-ce que vous êtes séparés du monde? Ou est-ce que vous fonctionnez comme les gens du monde? Vous pensez comme eux, vous parlez comme eux, vous vivez comme eux. Vous allez au même endroit que vous riez, aux mêmes plaisanteries. Est-ce que c'est clair dans votre tête que vous êtes séparés? La séparation. C'est une des valeurs essentielles du royaume de Dieu. On ne peut pas manger à deux râteliers, ce n'est pas possible. Vous êtes à Jésus? Soyez totalement à Jésus. Remercions le Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Jesus. Je vous invite à commencer à prier. Parlez au Seigneur de ce que vous avez retenu de ce message. Parlez au Seigneur de ce qui a parlé à votre cœur. Et s'il y a des domaines où vous avez réellement besoin de demander pardon à Dieu, parce que vous avez vécu dans le compromis, ou vous avez aussi commencé à douter, ou si vous voulez le remercier d'avoir établi dans vos cœurs des choses avec lesquelles vous vous bataillez avant, sur lesquelles vous étiez dans l'incertitude, et là vous dites, c'est bon, j'ai compris, je reste ferme. Remerciez-le, prions.
Seigneur, je vais te dire merci, Seigneur. Aujourd'hui, je décide de me séparer totalement, Père, des choses. Je décide une séparation totale, Père, complète, Seigneur, de toutes les choses, les valeurs de ce monde, dans le nom de Jésus. Je me sépare, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Je me sépare totalement, Seigneur. Complètement, Seigneur. Complètement. Je me donne un salut à ma tête. Valeur.
ici aujourd'hui et vous dites, waouh, cette séparation, c'est dur. Ce n'est pas la séparation qui est dure. C'est la révélation de Jésus qui n'est pas ancrée dans votre cœur. Quand la révélation de Jésus est ancrée dans nos cœurs, on veut être comme Jésus. Et on veut fuir tout ce qui n'est pas agréable à Jésus. Quel que soit l'appel de la chair, on dit non, si Jésus ne veut pas, je ne veux pas. Ah non, je veux faire à ça. Ah non, quand Jésus devient plus merveilleux pour vous que toute autre chose et toute autre personne, vous le choisirez par-dessus tout. Et donc la solution, ce n'est pas de dire, ah ouais, non, mais je n'ai pas arrivé à cette produit. Non, la solution, c'est de dire, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Je veux te connaître et je veux te désirer par-dessus tout. Je veux que mon cœur soit tellement engagé envers toi. Je veux avoir une telle conviction, une telle certitude te concernant que rien d'autre n'aura de la valeur à mes yeux.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Je veux savoir, est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent prier pour prendre un vrai engagement avec le Seigneur? Vous avez déjà donné votre vie au Seigneur, mais ces derniers temps, ça n'a pas été une vie de vraie droiture. Là, je ne parle pas nécessairement de péché charnel terrible, peut-être, mais pas nécessairement. Mais dans le sens de votre engagement envers Jésus, cette séparation totale, cette vie de consécration totale, et ça n'a pas été cela. Et vous voulez dire aujourd'hui, Seigneur, me voici. Me voici. Comme Esaïe t'a dit, me voici. Je te dis aujourd'hui, Père, me voici. Mes pieds, mes mains, tout ce que je suis, entièrement à toi pour aller totalement dans ton sens. Si c'est votre cas, je vais vous demander de venir devant, nous allons prier avec vous. Je fais cet appel parce que le Seigneur m'a demandé de le faire, parce qu'en réalité, nous n'avons pas plus beaucoup de temps. Donc, si c'est votre cas, je vous demande de ne pas hésiter. Venez devant. Ici, nous allons prier. Je demandais à Béatrice de venir m'aider avec la prière. Priscille, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je vous demande d'avancer. Merci. Avancez ici. Où est l'équipe de l'accueil? Vous pouvez les aider à se positionner. Venez. Ici, comme ça, on fait de la place. Non, non, non. C'est très bien, là. Alléluia. J'ai demandé à tous ceux qui sont dans la salle de se mettre à prier. Voilà, mettez-vous là, s'il vous plaît. Comme ça, on a de la place pour tout le monde. Glory to God. Essayez d'avancer dans la mesure du possible. Et nous allons faire cette prière. Je vais vous demander de me suivre dans cette prière si vous en avez le témoignage dans votre cœur. Père Céleste, me voici. Je me présente devant toi, Père. J'ai écouté, j'ai entendu. Ton appel a résonné dans mon cœur. Et je dis, Père, tu peux compter sur moi. Je réponds présent. Je te donne tout, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, corps, âme et esprit. Je me donne à toi, mon Père. Je me place entre tes mains, Papa. Ton enfant est là, Papa. Pleinement de retour. Complètement de retour. Mon Père, me voici. Investis de nouveau ma vie. Investis pleinement ma vie. Remplis-moi de ton esprit. Saisis-moi, Père. Je te dis aujourd'hui, en réponse à cette interrogation, non, je ne serai pas rebelle. Plus jamais rebelle. Plus jamais rebelle. Au milieu d'une génération rebelle. Je ne serai plus du tout rebelle. Me voici, mon Père. Je suis à toi. Corps, âme et esprit. Prends toute la place. Tout ce que tu as décidé. Me concernant.
avant la fondation du monde,
j'accepte.
J'épouse
tes pensées.
Je ne renégocierai pas
ton évangile,
mon engagement.
Je suis à toi,
Seigneur.
Je suis à toi, mon Père.
Entièrement soumis.
Entièrement
acquis.
Sans toi libre
de faire de moi
ce que tu veux.
De faire en moi
ce que tu veux.
De faire à travers moi
ce que tu veux.
Me voici, Seigneur.
Commencez à remercier le Seigneur.
Shabbat et Kessédé. J'ai juste prié avec vous.
Tu peux commencer à prier avec les frères et sœurs, s'il te plaît, à partir de là-bas. Laissez-nous aussi.
Alléluia.
Père, je te remercie pour ta fille. Je me mets en accord avec elle, Éternel, que tout ce que tu as prévu pour sa vie vient à l'accomplissement. Et que plus rien ne lui sera volé.
vers le roi qui vient.
Vers le roi qui vient.
Je veux chanter.
Je veux chanter.
Mon créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon créateur.
Remercions pour tant de vies changées. Te remercions pour l'appel de l'Esprit qui a résonné dans nos cœurs. Te remercions, Éternel, de nous avoir donné la compréhension de ta perspective divine. Seigneur, nous voulons voir comme tu vois, penser comme tu penses et parler comme tu parles. Nous voulons nous voir comme tu nous vois. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous allons vivre dans notre génération comme le temple du Dieu vivant. Père, nous te remercions pour ces choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons préparer nos offrandes. L'équipe de louanges va nous faire un chant. Et pendant que vous préparez, vous pouvez vous asseoir pour préparer vos offrandes. Alléluia.
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Je te donne
préparez vos offrandes. Amen. Nous allons tourner nos offrandes dans nos mains et nous allons prier. Et après, nous allons venir déposer nos offrandes. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît.
Alléluia.
Je tiens la main par la foi parce qu'elle est dans mon sac. Père céleste.
Père céleste.
Je t'apporte aujourd'hui.
Je t'apporte aujourd'hui.
Mes dîmes et mes offrandes.
Mes dîmes et mes offrandes.
Je te remercie, Père.
Je te remercie, Père.
Parce que je ne t'apporte.
Parce que je ne t'apporte
que ce que toi tu m'avais donné.
Que ce que toi tu m'avais donné.
Tout ce que j'ai.
Tout ce que j'ai.
J'ai reçu de toi.
J'ai reçu de toi.
Et à partir de ce que j'ai reçu de toi.
Et à partir de ce que j'ai reçu de toi.
Je t'apporte cette partie.
Je t'apporte cette partie.
Pour t'honorer.
Pour t'honorer.
Pour te remercier.
Pour te remercier.
Pour te bénir.
Pour te bénir.
Pour qu'il y ait de la nourriture dans ta maison.
Pour qu'il y ait de la nourriture dans ta maison.
Comme Israël disait Éternel.
Comme Israël disait Éternel.
Nous n'avons pas mangé nos dîmes.
Nous n'avons pas mangé nos dîmes.
Et nous n'avons pas mangé nos offrandes.
Nous n'avons pas mangé nos offrandes.
Mais nous te les apportons.
Mais nous te les apportons.
Pour t'honorer.
Pour t'honorer.
Et comme Israël disait.
Et comme Israël disait.
Nous déclarons Père.
Nous déclarons Père.
Maintenant.
Maintenant.
Regarde du ciel.
Tu regardes du ciel.
Et bénis-nous.
Et bénis-nous.
Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus.
Amen.
Amen.
Ça va apporter nos enfants dans la joie.
Alléluia.
C'est une bonne chose de servir le Seigneur. C'est une bonne chose de servir le Seigneur. C'est une bonne chose de servir le Seigneur. Marche dans la lumière de Dieu. Oh, marche, marche, marche. Marche dans la lumière. Oh, marche, marche, marche. Marche dans la lumière, oh marche, 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 marche dans la lumière, marche dans la lumière de Dieu. C'est une bonne chose de servir le Seigneur, c'est une bonne chose de servir le Seigneur, c'est une bonne chose de servir le Seigneur. Marche dans la lumière, je marche. Oh, je marche, je marche, je marche dans la lumière. Oh, je marche, je marche, je marche dans la lumière. Oh, je marche, je marche, je marche dans la lumière. Je marche dans la lumière de Dieu. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose de servir le Seigneur. C'est une bonne chose de servir le Seigneur. C'est une bonne chose de servir le Seigneur. Je marche dans la lumière de Dieu. Oh, je marche, je marche. Je marche dans la lumière. Oh, je marche, je marche. Je marche dans la lumière. Oh, je marche, je marche. Je marche dans la lumière. Je marche dans la lumière de Dieu.
Seigneur, te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes encore dans ta maison et d'apporter, Seigneur, nos offrandes avec allégresse. Parce que ta parole dit que tu aimes celui qui donne avec joie. Et nous sommes venus t'apporter avec joie. Et nous sommes venus te bénir, Seigneur. Et nous te remercions, Père, pour la multiplication dans nos vies. Nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas. Nous appelons les provisions abondantes, Seigneur, dans cette maison. Les provisions abondantes, Seigneur, pour la télévision. Les provisions abondantes, Seigneur, pour toutes les missions, là où tu vas nous envoyer dans le monde entier, Seigneur. Les missions, Seigneur, en France également. Nous déclarons, Père, l'abondance, Seigneur, dans toutes les églises à Bauhaus. Déclarons, Seigneur, que tout est pourvu, Seigneur. Il y a toujours en abondance pour toute bonne œuvre, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, quelques annonces. La première, vous savez que nous sommes une église qui évangélise. Amen. Et nous, amen. On a tellement reçu, on ne peut pas garder, n'est-ce pas? Et pendant ce mois, nous allons nous organiser comme suit. Chaque semaine, des équipes, donc des groupes, vont sortir évangéliser au moins une fois par semaine. Il y aura un responsable qui va venir vers moi, donc à la fin du culte. Vous allez constituer des équipes de votre choix. Choisissez le jour également où vous allez sortir cette semaine. Et un responsable ensuite viendra me donner son nom pour qu'on puisse me faire un rapport dans la semaine des personnes que vous avez évangélisées. Vous allez prier toute la semaine pour des rencontres divines et vous allez prier également pour les personnes que vous allez rencontrer. Alléluia. Si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec l'évangélisation, il y a plein de gens qui sont à l'aise avec l'évangélisation ici, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a le frère Yanis, on a la sœur Florentine, Oriane s'y est bien mise. Elvige, alors là, Elvige tout le temps, partout, vous allez la voir, même au supermarché, elle saisit toutes les occasions. Et moi-même, si vous souhaitez apprendre aussi dans le métro, le RER, peu importe l'endroit, tous les endroits sont bons, il faut toujours être prêt à annoncer le Seigneur. Alléluia, dans la joie, dans la bonne humeur. Hier encore avec Flo, on a eu un super témoignage, on a commencé à simplement à chanter « Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh ». Et au départ, je me disais, est-ce que c'est adapté ici ? C'est toujours prêt. Il faut toujours être prêt. Et les gens étaient tellement contents. Il y avait des sourires. Les personnes étaient vraiment contentes parce qu'on manifeste la vie de Dieu. Et on était remplis de joie. Et les gens sont venus vers nous. Il y a des personnes qui nous ont demandé. On a donné des cartes. Et on a eu vraiment de bons contacts. Les personnes travaillent le week-end, mais il y en a d'autres qui ne travaillent pas le week-end, qui vont être présents. Donc ce mois-ci, ça, c'est notre objectif. Vous allez également recevoir des mails. Nous avons eu nous excusons pour les mails précédents que vous avez eus cette semaine. Nous avons eu un petit problème avec un plugin. Donc certains l'ont peut-être reçu 2, 3, 4, 5 fois, mais c'est bien, ça veut dire que vous devez écouter. Moi, je l'ai reçu beaucoup plus. Mais on va donc résoudre ce problème et vous allez recevoir ensuite des mails que vous allez transférer également, c'est une autre façon d'évangéliser. D'accord ? Voilà.
Alléluia ! Est-ce que vous pouvez accueillir les gens qui sont là pour la première fois ? Alléluia. Vous êtes la bienvenue à Bauhaus. Alléluia ! La maison du Père. Glory to God. Nous avons une passion à Bauhaus. Nous sommes passionnés de Jésus.
Amen.
Nous croyons que nous pouvons bâtir une église où les gens sont passionnés de Jésus.
Amen.
Non pas passionnés de musique ni de chant, non pas passionnés de rencontres aussi et là, mais passionnés de Jésus. Alléluia. Nous sommes convaincus que dans notre génération, il y a des hommes et des femmes qui veulent aller loin avec Dieu. Alléluia. Glory to God. Donc, vous êtes la bienvenue à Bauhaus. Il y a des conseillers qui vont discuter avec vous à la fin du culte. Vous avez une question, sentez-vous libre. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un site, compagnietheophile.org. Et sur ce site, il y a beaucoup de vidéos. Qui est-ce qui aime les vidéos? Qui est-ce qui a besoin de délivrance du mensonge? Nous avons beaucoup de vidéos et ces vidéos sont vraiment très, très bien filmées. Merci à l'équipe. Et ces vidéos vous permettent d'annoncer l'évangile même quand vous dormez. N'est-ce pas? Ces vidéos vous permettent de répondre aux questions des gens même quand vous n'êtes pas là. Donc, je vous encourage encore une fois, si vous n'avez pas les références du site, les cartes doivent être sur la petite table qui est à côté. Je vous encourage à prendre les cartes du site pour vous-même, mais prenez les cartes aussi pour distribuer, pour donner aux gens qui vont pouvoir y aller, qui vont pouvoir voir des témoignages, comme le témoignage de Justine, très puissant, le témoignage d'Edwige, alléluia, le témoignage des gens qui ont été touchés par Dieu. Et il y a certainement un témoignage qui va vous parler et qui va parler aux gens que vous voulez amener au Seigneur. Il y a des fois où vous leur envoyez une vidéo et c'est tout, et c'est ça qui va les convaincre. Alléluia. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris l'explication de Béatrice tout à l'heure, vous êtes censé vous mettre avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment évangéliser? Vous pouvez aussi aimer par la foi. Par la foi, puisque vous savez que Jésus vous a demandé de le faire. Donc, puisque Jésus l'a dit, j'aime. Et je vais apprendre à aimer. C'est comme l'homme qui est venu à Jésus. Jésus lui a dit, est-ce que tu crois? Il dit, ah, je crois, mais aide mon incrédulité. Donc, ce que vous êtes censé faire, en fait, c'est vous mettre en connexion avec quelqu'un pour dire, cette semaine, nous allons évangéliser ensemble. Nous avons choisi jeudi. Mais vous êtes libre de le faire un autre jour si jeudi, vous êtes pris et que c'est vraiment impossible pour vous de vous libérer. La raison pour laquelle nous avons choisi jeudi, c'est pour avoir une unité dans l'esprit qui nous permet de prier tous ce même jour est vraiment libéré une puissance extraordinaire. Maintenant, vous êtes censé évangéliser tous les jours. Donc, surtout, ne dites pas, « Ah, j'aurais aimé lui parler, mais c'est mercredi. Ah. » Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Donc, vous êtes censé aller voir quelqu'un, dire, « Bon, on va évangéliser ensemble cette semaine. » Et ensuite, vous dites cela à Béa, comme ça, elle peut noter que vous faites. Nous préférons vous laisser vous organiser, mais si vous ne vous organisez pas, nous allons vous organiser. Alléluia. Dieu fait de bonnes choses à Bauhaus. Je vous encourage cette semaine aussi, s'il vous plaît, priez pour notre local.
prier pour notre local. Il nous reste peu de temps, mais je ne peux pas terminer ce culte sans prier pour Priscille. Si tu veux venir, s'il te plaît. Ce que nous allons faire ensuite, je vous demande, s'il vous plaît, c'est qu'il nous reste vraiment très peu de temps. C'est à la fin du culte que tout le monde participe pour désinstaller et ensuite on va monter et discuter. Je veux que nous prions pour Priscille parce qu'elle a fêté ses 40 ans cette semaine. Et nous sommes une famille, n'est-ce pas? Nous sommes une famille. Et Priscille est vraiment en témoignage de l'extraordinaire œuvre que Dieu fait dans les vies. Cette femme belle, pimpante, remplie de gloire et de puissance, n'était pas comme ça il y a quelques années. Quel que soit l'état où vous êtes aujourd'hui, ce qui compte, c'est que lorsque vous mettez votre main dans la main de Dieu, il change votre histoire. Et Dieu a changé son histoire. Et nous avons pu en être témoins. Et à chaque fois que je regarde Priscille, je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Dieu change les vies. Si vous connaissez les gens qui sont affligés, qui vivent des choses difficiles, amenez-les. Dieu change les vies à Abba House. Alléluia. Est-ce que vous pouvez tendre les mains vers elle, s'il vous plaît? Simplement bénissez-la. Priez pour elle. Déclarez la bénédiction sur elle. Déclarez sur elle qu'elle est la première et non la dernière. Elle est en avant, elle n'est pas en arrière. Déclarez qu'alors qu'elle commence ses 40 ans et que sa nouvelle jeunesse commence, la gloire de Dieu se manifeste sur sa vie. La puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu passes à une étape supérieure, dans le naturel et dans l'esprit. Tu montes et tu montes, tu montes. Tu ne seras plus jamais en arrière. Tu montes, tu montes, tu montes au nom de Jésus. Tu montes, tu montes, tu montes. Dieu est ton partage, Dieu est ta force. Ton Dieu qui t'a conduit jusque-là, il te conduira continuellement tous les jours de ta vie. Et ta vie sera en témoignage à la gloire de Dieu, la puissance de l'Éternel. Non seulement est manifestée en ta faveur, mais manifestée à travers toi. Tu seras appelée maman, pas beaucoup, pas uniquement tes enfants naturels, mais l'Éternel te donne des enfants spirituels parce qu'il te donne de porter des fruits. Il te donne d'être féconde et d'amener à l'existence la vie de Dieu dans la vie des gens qui sont appauvris, qui sont rejetés, qui sont au banc de la société. Dieu te donne la capacité de les toucher, de leur donner une parole, de leur donner une nouvelle espérance. Et à travers toi, il va leur donner une nouvelle beauté, un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu d'un esprit abattu. Ce que l'Éternel a fait pour toi, il fera à travers toi. Et tu seras une mère de beaucoup, une mère de peuple, une mère de nation. L'Éternel te bénit et donne le fruit de tes entrailles et te bénit. Tes enfants sont bénis. Ils sont bénis en entrant, ils sont bénis en sortant. Et ils seront les premiers et non les derniers. Et partout où ils sont, la gloire de Dieu se verra sur eux et tu verras le fruit de ton travail dans leur vie et tu t'en réjouiras. Que sois béni au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Holy Spirit, thank you. Alléluia. Donc bénissez-la, elle a fêté ses 40 ans. C'est une nouvelle jeunesse qui commence. Alléluia. C'est pour ça qu'au début, lorsque je chantais le fait qu'il nous rajeunit comme l'aigle, j'ai dit, Priscille, maintenant ça a un sens pour elle. N'est-ce pas? Quand on a encore 30 ans, ça n'a pas de sens. Quand il nous rajeunit comme l'aigle. Amen! Au-delà de 40 ans, on commence à chanter. Remercions le Seigneur pour ce culte. Alléluia. Père, nous te remercions pour ce culte. Nous te remercions pour tous nos frères et sœurs avec qui nous avons passé un moment merveilleux dans ta présence. Nous te remercions pour de ce que tu es agréé nos louanges. Nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée. Nous te remercions pour la manière dont ton esprit l'a inspiré, dont ton esprit a touché nos cœurs. Nous te remercions pour les décisions qui ont été prises. Nous te remercions lorsque ces décisions sont scellées par ton esprit et sont irrévocables au nom de Jésus. La décision d'aller jusqu'au bout avec toi, irrévocable. Nous la déclarons irrévocable. Au nom de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu fais encore dans nos vies cette semaine. Et cette semaine éternelle, nous voulons avoir la joie d'amener les gens à la connaissance de Christ. Donc nous appelons la moisson. Nous allons semer Père, mais nous appelons la moisson. À partir de cette semaine, nous allons voir la moisson. Nous allons voir Père. Nous allons voir les gens se donner à Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dites entre voisins, voisin. Va dans cette force que tu as. Tu as entendu la parole. L'Esprit de Dieu t'a touché. Il t'a renouvelé. Maintenant, sache ceci. Partout où tu vas, tu es le premier. Tu n'es pas le dernier. Tu es en avant. Tu n'es pas en arrière. Tu es le temple du Dieu vivant. Alors marche la tête haute. Réjouis-toi. Bénis ton Dieu chaque jour. Annonce l'évangile. Tu es plus fort que ce que tu n'imagines. Alors bénis le Seigneur. Dieu t'aime. Et moi aussi. Alléluia.